With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Depuis le début de l'année, la French Tech est à la fête. On pourrait même dire que c'est soirée champagne et cotillon presque tous les soirs pour la Startup Nation. Le 21 septembre dernier fut la journée de tous les superlatifs, avec deux levées de fonds géantes pour la France et plus $1,200 millions de dollars récoltés par deux entreprises, Miracle et Sorare. Un succès qui ne devient pas si rare que ça. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour traiter un sujet qui fait la une du journal en matière d'économie, de finance ou de société. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Sorare, la nouvelle pépite de la French Tech.
Nicolas Julia, votre société a 3 ans, vous avez aujourd'hui 30 salariés, vous valez 4 milliards de dollars. Est-ce que vous réalisez vous-même de ce que vous avez fait en 3 ans et de ce qui est en train de se passer là ?
Invité de BFM Business, le PDG et cofondateur de Sorare ne semblait pas avoir trop de mal à réaliser la performance de son entreprise qui a levé 680 millions de dollars auprès d'investisseurs. Il faut dire que l'homme a de l'ambition. Faire de Sorare le leader mondial du divertissement dans le sport en s'appuyant sur la blockchain. Rien que ça. Il faut dire que la jeune pousse évolue sur un segment de marché qui ringardise les cartes de sport type Panini, même si on l'imagine mal encore déloger ces cartes dans les cours de récré. Mais comment cette entreprise née il y a à peine 3 ans est-elle parvenue à attirer autant d'investisseurs, dont certains de renom ? Pour en parler, j'ai sollicité notre French Tech à nous, le service start-up des Échos. Bonjour Guillaume Brégeras.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes chef du service Startup. D'abord, pour bien comprendre l'exploit réalisé par Sorare, 680 millions de dollars, c'est l'une des plus grosses levées de fonds jamais réalisées en France pour une startup.
Alors c'est même la plus grosse levée de fonds jamais enregistrée, Pierrick. On avait eu déjà un record battu en début d'année avec Content Square qui avait annoncé une levée à 500 millions. Mais là, on en a une de 680, donc qui explose tous les records.
Ouais, ce qui en fait une licorne également, la licorne française la mieux valorisée, à plus de 4 milliards de dollars. Guillaume, qu'est-ce qui a attiré les investisseurs et notamment le japonais SoftBank ?
Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est quand même la trajectoire ahurissante de Sorare. Il ne faut pas oublier que c'est une société qui a été créée il y a à peine 3 ans. Donc, elle est toute jeune. Elle devrait atteindre les 200 millions de dollars de transactions, de volume d'affaires, puisqu'elle fait des échanges. Elle organise notamment des échanges de cartes qui génèrent de la valeur. Et en plus, elle est rentable, ce qui est vraiment un modèle... un exemple très, très atypique dans la French Tech. Comme tous les investisseurs, SoftBank adore ce genre de modèle. Et comme c'est celui qui a les poches les plus profondes, c'est probablement aussi pour ça qu'il a remporté ce deal.
On parle de blockchain, de NFT avec Sorare. Ce sont des mots qui claquent aux oreilles des investisseurs et de la Silicon Valley.
Effectivement, NFT, blockchain, c'est un peu les buzzwords du moment. On a eu l'intelligence artificielle, on a eu les data, on a eu plein de mots comme ça. Aujourd'hui, c'est blockchain, c'est NFT. On sent bien qu'il y a des nouveaux usages et des nouveaux marchés. Et c'est ce que recherchent les investisseurs, ceux en tout cas qui ont le plus d'agressivité et qui veulent vraiment accompagner des boîtes qui peuvent transformer des modèles. Ils recherchent ça, ils recherchent des nouveaux marchés. Et c'est pour ça aussi que Sorare est en très bonne position, c'est qu'il est en train de créer ce marché-là. Il fait partie des précurseurs. Et ça, les investisseurs, qu'ils soient de la Silicon Valley ou autre, ils adorent.
Et un blockchain, NFT, des mots qui attirent les millions presque autant que le ballon rond de Messi et Ronaldo. Mais que fait Sorare et quel rapport avec le foot ? C'est la question que j'ai posée à Charlie Perrault, journaliste au service start-up des Échos.
Et ben en fait, Sorare, c'est un mélange de fantasy football. Donc, c'est une sorte de jeu dans lequel on réunit en fait des joueurs dans une équipe de football. Et puis voilà, ils vont jouer en équipe, ils vont faire des matchs. Et un peu comme Mon Petit Gazon, qui est assez connu dans le secteur du jeu vidéo. Mais à la fois, c'est un jeu donc de fantasy football et aussi de jeu de collection de cartes. Donc voilà, vous achetez des cartes qui représentent des joueurs, comme peut-être vous connaissez tous les cartes Panini, on échangeait plutôt dans les années 90-2000, voilà, sous format physique. Et là, c'est vraiment sous format virtuel.
On est vraiment dans du Panini 2.0. Hein.
Exactement. Tout est donc virtuel. Vous achetez ça donc sur une plateforme, sur un site internet. Mais contrairement à vraiment la carte Panini, c'est-à-dire que vous allez l'avoir que pour vous. On va dire qu'il n'y aura qu'un modèle qui va exister. Vous aurez en tout, alors pour être très précis, il y a 1111 cartes qui sont émises chaque saison. Et vous en avez donc 1000 qui sont des cartes, on va dire, de série limitée, 100 qui vont être des cartes rares, 10 qui vont être très rares et une, donc une unique. Voilà, donc à chaque fois, vous n'aurez que 1111 Griezmann, par exemple.
Il me semble que c'est le 5 qui serait sorti, non ?
Il a été blessé au départ. Hein,
Wiltord.
Lee est là. Alors, il y a deux Lee. Hein.
Oui, c'est un grand appartement.
1100 Griezmann, alors ça ferait beaucoup sur le terrain, mais ça fait finalement peu de cartes par rapport aux centaines de milliers de joueurs. Hein.
Voilà, exactement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont vraiment uniques, c'est-à-dire celles que vous avez, il n'y a que vous qui l'avez, parce que tout est certifié en fait par la blockchain, donc qui est une technologie dont on parle de plus en plus et qui permet de tracer et d'authentifier tout ce qu'il y a dessus. Et donc, voilà, on sait que cette carte Griezmann est bien la vôtre. Et même quand vous la revendez, on sait que c'est bien vous qui l'avez revendue à cette personne. Et cette personne sait bien que c'est vous qui l'avez.
C'est une autre différence avec les cartes Panini que l'on échangeait enfant dans la cour de récré. Des cartes virtuelles avec dessus la photo du joueur, son club, son âge, sa position et son pays d'origine. À la base, il y a donc un jeu de cartes. Il faut avoir une main de 5 cartes de joueur. Toutes les semaines, cette main va gagner de l'expérience en fonction des résultats sportifs. Plus une carte a de l'expérience et plus elle peut valoir cher et permettre ainsi à son propriétaire de gagner de l'argent. Guillaume, je reviens vers vous. Derrière ce coup d'éclat, il y a un jeune homme, Nicolas Julia, PDG et cofondateur de Sorare, aux côtés de Adrien Montfort et Pierre Dupérin. Comment est-ce qu'ils ont eu cette idée d'un jeu de football fantasy basé sur la blockchain ?
Alors, l'idée se puise très certainement tout simplement derrière leur passion. Nicolas, notamment, est un grand passionné de football. Il adore l'Olympique de Marseille et il ne s'en cache pas. Alors, il dit prendre un peu de distance maintenant par rapport à tous les autres clubs qui rentrent dans la galaxie Sorare. Mais effectivement, c'est avant tout des gens qui ont été baignés dans cet univers, qui ont été baignés dans l'univers Panini aussi, ce qui donne un petit peu un sens de la collection. Et Nicolas Julia a été le premier employé d'une entreprise qui s'appelait Stratum, déjà dans la blockchain. Et donc, il avait été très, très rapidement confronté à ces concepts. Et à un moment donné, il a compris qu'avec le NFT, il allait se passer une petite révolution sur la manière de collectionner les articles. Alors, c'est vrai qu'on l'a plus vu d'abord dans l'art, mais maintenant, ça arrive dans d'autres domaines, notamment le sport, qui est un des marchés sur lesquels vraiment ce qu'on appelle les collectibles en anglais, donc tous les objets de collection qui tournent autour du sport, prennent une envergure phénoménale.
Oui, ce qui est intéressant, c'est avant d'en arriver à cette capacité à lever des centaines de millions d'euros auprès des investisseurs, quand on regarde un peu l'histoire, c'est qu'au début, il a plutôt prêché dans le désert.
Il était vraiment seul. On a parlé à pas mal d'investisseurs pour essayer de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui, ce sont des étrangers qui sont à la tête de cette levée de fonds. La plupart avouent très sincèrement être passés à côté. C'est-à-dire, ils reconnaissaient en Nicolas une forte faculté à délivrer un plan. Il était logique dans ses décisions, dans la manière de présenter son marché, mais personne n'y croyait. C'était incroyable, personne ne voulait le suivre. Et en fait, ils ont été très peu au tout début à vouloir le faire. Et c'est des gens qui ont effectivement aujourd'hui gagné beaucoup d'argent forcément puisqu'ils sont rentrés à une valorisation de la boîte qui était moins de 10 millions. Et donc voilà, c'est toujours les mêmes histoires. C'est-à-dire que souvent, les plus grosses histoires dans la tech, qu'elles soient françaises ou ailleurs, viennent des outsiders, de ceux qu'on ne voit pas venir. Et il y a toujours une petite poignée de gens qui sont capables de leur faire confiance ou de se dire « bon, bah là, on risque pas grand-chose à miser un ticket ». Mais par contre, on sait que si ça prend, ça va payer très, très fort.
Ouais, passer de 10 millions de valorisation à plus de 4 milliards 300 millions, il y en a qui doivent se mordre les doigts.
Ouais, ils se mordent les doigts et je peux vous assurer que plusieurs m'ont dit « mais on a raté le coup de notre vie, hein. On a raté le coup de notre vie avec Sorare ». Voilà, il y en aura certainement d'autres, mais c'est vrai que dans la vie d'un VC, d'un investisseur, ce type d'opportunité, en général, surtout en France, va pas se présenter tous les quatre matins. Voilà, après, maintenant, le deal est passé et ils passent tous à autre chose, mais c'est vrai que ça restera dans l'histoire de la French Tech comme un cas très, très particulier.
Quel est le parcours de son cofondateur, Nicolas Julia?
Alors, Nicolas Julia, il a démarré tout simplement dans le conseil, comme beaucoup de jeunes têtes bien formées. Et rapidement, il a choisi plutôt que d'aller vers des grands groupes avec un salaire confortable, avec des avantages, etc. Il a plutôt préféré se tourner déjà vers la blockchain. Donc, Stratum, une des premières boîtes blockchain en France qui est digne d'intérêt, on va dire. Et il en était l'employé numéro un. Et c'est comme ça qu'il s'est formé à la blockchain, aux crypto-monnaies, à tout un tas de sujets qui étaient encore en tout début d'histoire. Et c'est ça qui lui a permis ensuite d'avoir l'idée de Sorare aujourd'hui avec ses deux cofondateurs également originaires de Stratum.
Oui, il est diplômé de l'EM Lyon, à l'école de management de Lyon. Il est passé dans le conseil Eurogroup, vous le disiez. Ce parcours, il explique aussi comment l'entreprise a pu connaître un tel développement en seulement 3 ans.
Ça ne suffit pas, très sincèrement. Ce qui explique avant tout la trajectoire de Nicolas, d'Adrien et de Pierre et de Sorare, c'est vraiment leur capacité à exécuter et la vision première. C'est ces deux piliers qui ont fait la différence. La vision, c'est d'imaginer que ce marché des objets de collection dans le sport par NFT puisse devenir un marché suffisamment gros pour fabriquer un géant mondial. Et la deuxième raison, c'est la capacité à exécuter. Et ça, tous les investisseurs qu'on a pu croiser nous l'ont dit. Même ceux qui n'ont pas investi, ils étaient bluffés dès le début par leur capacité à aller chercher, à signer des deals avec des clubs de foot renommés. Voilà, ils étaient capables d'aller signer des partenariats avec la boîte n'avait qu'un an d'existence avant des NFT. Je veux dire, il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, personne n'en parlait. Et donc, ils ont eu cette capacité petit à petit à signer des contrats, à se focaliser sur leur marché et non pas sur la technologie, ce que beaucoup d'autres cofondateurs, notamment crypto et blockchain, font et ce qui souvent les ralentissent dans leur croissance.
Je vais vous présenter les meilleurs coups à faire. On va regarder des cartes à moins de 100 euros qui peuvent avoir un impact immédiat. Voilà, ce ne sera pas pour faire de l'achat-revente sur le long terme et attendre qu'un joueur performe pour faire une bénéfice dessus, mais ça va être un guide d'achat pour les premières cartes, peut-être pour des nouveaux joueurs.
La communauté YouTube s'est vite emparée du phénomène avec de nombreuses vidéos pour bien débuter, les erreurs à ne pas commettre. On a bien compris, pour se constituer son jeu de cartes, son équipe de foot virtuel, il faut en acheter des cartes et elles n'ont pas toutes la même valeur. Ce n'est pas comme quand on achetait une pochette Panini à 50 centimes. Charlie, d'ailleurs, comment fait-on pour acheter des cartes?
Bien, c'est simple et c'est d'ailleurs la force de Sorare, c'est d'avoir rendu tout ce process très simple parce que quand on parle souvent blockchain et crypto-monnaie, bah, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et eux, ils ont construit une plateforme. Alors, pour l'instant, c'est qu'un site internet, il n'y a pas encore d'application et vous allez dessus et vous avez un parcours très simple d'inscription et en quelques minutes, vous choisissez votre ligue, vous pouvez choisir des joueurs, vous achetez vos cartes de façon très simple et ce qui est encore plus fort, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de crypto-monnaie, ce qui est souvent le cas dans beaucoup de jeux blockchain crypto, là, vous pouvez entrer votre carte bleue tout bêtement et en fait, c'est grâce à un module de paiement, il va faire la conversion en Ether parce qu'eux sont obligés d'avoir de l'Ether puisque c'est basé sur la blockchain Ethereum qui est donc une blockchain très connue dans le milieu. Donc, c'est ça qui fait que n'importe qui, en fait, peut acheter des cartes Sorare sans se rendre compte qu'il utilise en fait de l'Ether.
Ouais, c'est le monsieur Jourdain de la crypto-monnaie, j'ai envie de dire. On se retrouve là aussi quand même avec une prise de risque parce qu'on est sur une monnaie qui est assez volatile, assez versatile comme beaucoup des crypto-monnaies. On pense bien sûr au Bitcoin, sauf que là, on achète et on vend en euros. Ça aura un impact là aussi sur l'évolution des prix de ces cartes?
Ah bah oui, puisque même si vous l'achetez effectivement à un tel prix, votre carte, le lendemain, elle peut valoir beaucoup moins puisque la mise en vente est bien en Ether. Vous voyez les prix voilà, sous chaque carte, c'est bien marqué ETH, donc Ether. Et donc, effectivement, bah, d'un jour à l'autre, ça peut faire moins 5% comme plus 10%. C'est encore très volatile comme marché.
On a déjà parlé hein, dans la story de l'envolée des prix pour les cartes Pokémon ou les cartes Magic. Hein, ça marche aussi. Alors, des cartes en carton, très souvent, pas numérique. Charlie, les cartes Sorare font-elles aussi l'objet d'intenses spéculations?
Et oui. Et c'est même, peut-être pour l'instant, on va dire que de la spéculation, puisque comme pour tout jeu crypto, pour voilà, même tout service crypto, bah, au début, c'est de la spéculation. On le voit aujourd'hui beaucoup dans d'autres cas, dans ce qu'on appelle les NFT, hein, ces petits jetons dont, en fait, Sorare, une carte Sorare est un NFT. Tout est encore spéculation, c'est-à-dire, bah, vous voyez des choses qui se vendent à 100 000, des œuvres d'art à plusieurs millions. Alors, on ne sait pas vraiment voilà, sur quoi tout ça peut reposer, même si ça a quand même une valeur pour certains hein, d'acheter une œuvre d'art numérique. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est des fois sur des cartes qui à plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein, donc, c'est évidemment assez élevé. Ouais.
En mars dernier, une carte Cristiano Ronaldo de la saison 2020-2021, période Juventus, s'est donc vendue pour 150 Ethers, soit à l'époque 290 000 dollars. Une bonne affaire, puisqu'avec l'envolée des cours de la crypto-monnaie, cette même carte valait potentiellement le 27 septembre plus de 393 000 dollars, une sacrée plus-value. Au total, il existe plus de 540 000 cartes en circulation. Charlie, on sait d'ailleurs combien il y a de joueurs sur Sorare ?
Alors, on sait à peu près, puisque l'avantage de la blockchain, c'est que tout est traçable. Donc voilà, on ne peut pas mentir, mais on sait exactement combien de transactions sont faites par jour. Vous pouvez tout suivre sur Internet. Et par contre, on ne peut pas avoir d'idée exactement à un instant T combien voilà, il y a d'utilisateurs. Mais en tout cas, Sorare revendique à peu près 150 000 utilisateurs par mois actifs, donc, voilà, qui vont au moins acheter ou vendre une carte, ce qui est donc très peu quand on met à l'échelle mondiale et le nombre de fans de foot.
La blockchain, c'est une sécurité contre le vol et la falsification également de ces cartes numériques ?
Oui, surtout de la falsification, puisque effectivement, quand vous achetez ce NFT, bah, il a un marquage qui fait qu'il est unique, donc vous ne pouvez pas changer en tout cas la blockchain. Après, quand vous dites qu'on ne peut pas voler, ça dépend où vous stockez votre NFT. Comme vous stockez vos cryptos, si on a déjà eu des vols sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Donc, il faut en fait stocker votre NFT dans quelque chose d'assez sécurisé. Alors, il existe pas mal de solutions. On appelle ça des wallets, hein, donc des portefeuilles qui peuvent être offline. Donc, certains ressemblent à des petites clés USB et qui sont donc à vous et impossible de vous le faire voler puisqu'il y a seulement vous qui avez les codes pour accéder à ce petit wallet, contrairement aux plateformes que vous connaissez peut-être comme Coinbase, où là, pour accéder à ce genre de plateforme, bah, eux, ils ont aussi ces codes et c'est pour ça que certains se font hacker.
Mais c'est vrai que certains planquent leur argent ou dans une lessiveuse ou sous le lit ou dans une chaussette. Eh bien, c'est pareil, il vaut mieux pas laisser traîner ces NFT sur le disque dur de son ordinateur. Est-ce que c'est un business rentable pour Sorare ?
Ah oui, 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 oui. Un business même très rentable. Il prévoit donc de faire un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars fin 2021, ce qui est exceptionnel pour une start-up qui a à peine 3 ans, quand on connaît très bien l'univers des startups, la plupart ne sont pas du tout rentables et même ne dégagent pas de chiffre d'affaires, enfin en tout cas très peu. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable ce qui se passe chez eux. Et encore, ils ont ça en ayant, comme je vous le disais, 150 000 utilisateurs actifs mensuels et pas du tout de marketing. C'est-à-dire que tout se fait au bouche à oreille. Un tel connaît un tel, il va lui parler et ça se passe que comme ça.
Pas de marketing, mais une communauté très active sur YouTube, par exemple, ou sur Internet. Bon, on est quand même loin hein, des scores des YouTuber stars sur Minecraft ou Fortnite. Mais il y a une question qui me turlupine, Charlie. Pourquoi les clubs de foot laissent-ils Sorare utiliser ainsi l'image de leurs joueurs ?
Alors, ils ne laissent pas du tout utiliser, parce qu'il y a des gros contrats entre Sorare et les clubs de foot. Alors, parce qu'en fait, le modèle économique de Sorare n'est pas seulement basé sur la vente de cartes. Donc, effectivement, ils se rémunèrent là-dessus. Donc là, ils prennent une commission, alors qui varie hein, entre 5 et 15%. Et après, ils reversent une partie de ces commissions au club de foot avec qui ils ont signé. Donc, en fait, Sorare, c'est ça aussi leur force, c'est qu'ils vont signer avec chaque club. Et là, ils en ont, alors de mémoire, 180 à l'heure où on se parle. Et à chaque fois, ils vont leur verser. Alors, ça dépend. Certains ont voilà, des contrats et ça peut être des contrats qui peuvent aller de 3, 5, 7 ans. Donc, c'est vraiment pas gratuit. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne pouvez pas avoir tous les joueurs de foot. Et oui, vous avez par exemple le Barça ne fait pas partie. Vous ne trouverez pas de joueurs du Barça dans Sorare. Et pas toutes les ligues. Ils commencent à faire à signer avec quelques ligues comme la Ligue espagnole, qui est une des plus grosses ligues européennes. Mais il faut aller, en fait, à chaque fois les chercher une par une.
C'est un business qui a séduit aussi des joueurs de football en chair et en os ?
Oui. Oui. Alors, je ne suis pas une très grande spécialiste de football, mais effectivement, il a signé avec des grands noms, hein, Antoine Griezmann, Gérard Piqué notamment, et des gens qui sont venus assez tôt. Hein, c'est ça qui est assez fort, puisque comme ça, ça permet à Sorare de faire un bon branding et après de faire parler autour et d'ailleurs d'amener d'autres sportifs à investir chez lui. Et en plus, ils sont venus assez tôt dans l'aventure, puisqu'il faut savoir que tout le monde n'a pas cru à Sorare dès le début. Donc, c'est assez... on va dire singulier, quoi. C'est vrai que les joueurs de foot n'investissent pas trop dans les startups.
L'Espagnol Gérard Piqué et l'Allemand André Schürrle ont fait leur entrée au capital mi-2020 pour un montant non dévoilé. Le joueur du Barça, connu pour son sens des affaires et même conseiller stratégique de Sorare, il ne doit pas regretter son investissement alors que la dernière levée de fonds valorise la startup à plus de 4 milliards de dollars. Charlie, son PDG veut en faire le leader à terme du divertissement sportif dans le monde. C'est très ambitieux. Il y a encore beaucoup de chemin à faire quand même pour gagner la Ligue des champions dans ce business.
Oui, mais avec 680 millions de dollars, je pense que ça aide, hein, comme on dit souvent dans le milieu des startups. Voilà, je veux dire que c'est facile, mais en tout cas, ça aide beaucoup d'avoir énormément de fonds pour après se développer. Là, ils vont partir aux États-Unis, donc une fois qu'ils vont réussir à aller attaquer les gros sports américains, les grosses ligues, la NFL, la NBA, bon, ils vont tout exploser et on voit très bien le potentiel. Et si on voit qu'il y a autant de fonds, c'est que, de toute façon, le marché est mondial et ils sont arrivés vraiment au tout début de cette révolution.
Il peut y avoir quand même des écueils à franchir ?
En fait, ça va être à chaque fois d'aller les voir un par un et en fait mettre l'argent sur la table parce qu'il va falloir convaincre, hein, parce qu'on sait aussi que tout cet argent va servir à dire aux clubs, aux ligues, regardez, faites-nous confiance pour signer. Et après, le risque aussi, c'est toujours de se dire, bah, si j'achète cette carte et le lendemain, en fait, elle ne vaut plus rien parce que je ne sais pour quelle raison ce joueur n'est plus là ou il y a un scandale ou je ne sais quoi, la carte ne vaut plus rien. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui n'a aucune valeur.
Merci Charlie Perrault et Guillaume Brégeras, membres de la Dream Team du service Startup des Échos, à retrouver tous les jours dans les pages des Échos et sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet.